Nous sommes des élèves de l'école de Brou, en centre-ville à Bourg.
On est un groupe de 10 entre 8 et 11 ans.
Oel,
Sofiane,
Kuli,
Emma, Lola,
Ryan, Sono,
Jenna,
Alan,
Jana,
Ryan,
Alan,
Oel,
Uli,
Emma,
Sofiane,
Jenna,
Jana.
On aime tous les animaux.
Et on en connaît une bonne liste.
Hamster,
lama,
grenouille,
cheval,
âne,
cochon,
chat,
tigre,
lion,
panda,
autruche,
chèvre,
mouton,
perroquet,
zèbre,
hérisson,
chien,
lapin,
éléphant,
écureuil,
serpent,
escargot,
éléphant,
loup,
bouc,
mygale,
fourmi,
cerf,
mouche,
renard,
lynx,
mammouth,
lièvre,
ver de terre,
baleine,
scarabée,
cafard,
poisson,
requin,
sanglier,
lézard,
poisson-chat,
crapaud,
castor,
mouton,
crocodile,
kangourou,
licorne,
cobra,
rhinocéros,
orque,
poulet,
dinosaure,
putois,
T-rex,
hyène,
gorille,
hippocampe,
dindon,
rouge-gorge,
iguane,
dauphin,
poulpe,
méduse,
chimpanzé,
baleine blanche,
canard,
mouton,
requin blanc,
requin marteau,
gendarme,
tricératops,
tarentule,
faucon.
Bon, on ne les a pas tous vus en vrai, mais on est d'accord pour dire qu'ils sont tous importants sur notre planète.
Alors, on a choisi le thème de la protection animale pour notre émission.
Au sommaire de notre émission.
Définition de la protection animale.
Micro-trottoir dans les rues de Bourg-en-Bresse.
Les 16 règles principales de la protection animale. Interview de Quentin et Régis de la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature.
Et en bonus, des vrais ou faux pour tester vos connaissances sur les animaux en voie de disparition.
Radio B comme biche.
Mais au fait, ça veut dire quoi protéger les animaux ?
On a réfléchi à ce sujet en groupe. On nous écoute, nous, les CE2.
La protection animaux, c'est pas de tuer des animaux pour prendre, par exemple, les défenses des éléphants, juste pour avoir beaucoup d'argent.
C'est pas les maltraiter, pas les tuer pour avoir, comme dit OS, par exemple, leur défense, comme pour les éléphants.
Mais je me demande, c'est un peu comme une question que je pose, mais c'est bizarre, pourquoi on est obligé de tuer des animaux pour manger de la viande?
Moi aussi j'ai une question, c'est que pourquoi les gens ils tuent les animaux pour prendre leur peau?
Les animaux, en fait, c'est comme notre deuxième bras.
Bah moi je crois qu'il faut pas tuer les animaux parce que, en fait... les animaux, c'est comme nous, c'est comme
personnes. Des personnes.
Oui, voilà. Et ben moi, je tuerai pas les animaux.
C'est vrai que si on tue des animaux pour rien, c'est normal que les animaux s'entretuent pour manger. Mais nous, c'est pas normal qu'on les tue. En fait, moi, j'avais une question. Une autre question, c'est ben nos mamans, des fois, elles nous grondent parce qu'on mange pas assez de légumes. Donc, si on doit manger des légumes, pourquoi on tue des animaux pour avoir de la viande? Mais c'est vrai que les animaux se régénèrent. Ça veut dire si, par exemple, une poule fait un œuf, le poussin va sortir, va grandir, va devenir un coq ou un poulet.
Bah, et il y en a qui, comme ça, qui ne les font pas devenir grands. Ils les tuent quand ils sont dans l'œuf.
Oui, et en plus, ils sont tout pour faire des gâteaux et tout, mais moi je préfère quand même pas manger un gâteau qui avait des poussins à l'intérieur des œufs.
Alors c'est soit le gâteau soit le poussin, quoi.
Ouais, voilà, moi je préfère le poussin, quoi, même si je fais des gâteaux avec des œufs.
Bah le bison, par exemple, il faudrait pas le manger parce que il est en train de disparaître. Ça fait longtemps qu'on l'a plus revu et on l'a revu maintenant. C'est qu'un troupeau. Ils n'ont pas revu d'autres troupeaux, alors il faudrait pas le tuer pour les manger.
Sinon, ça serait plutôt vraiment hors disparition, quoi. en voie de disparition, si tu manges tout le troupeau, et ben là, t'en revoiras plus. Donc, il faut laisser.
Par après, exemple, il y en a plusieurs.
La maman en fait, comme ça, il y en a c'est plus. Bon.
Pour moi, j'avais une idée pour pas que les animaux se fassent du mal ou les gens leur fassent du mal. C'est de construire un zoo spécialisé pour toutes sortes d'animaux. Les animaux plus les sauvages. Les animaux les plus sauvages dans un enclos. Pour pas qu'ils s'entretuent, pour pas que tout le monde les tue, pas que ils se tuent. Trouver un animal par terre blessé, faut pas le laisser dans la rue, faut le sauver.
Et nous, les CM2, on avait aussi des choses à dire.
C'est de ne pas maltraiter ces animaux déjà domestiques et de ni maltraiter les animaux sauvages.
C'est de pas maltraiter les animaux pour les tuer, par exemple, ou pour en faire quelque chose avec.
C'est de protéger les animaux, de ne pas les mettre en danger, de bien s'occuper d'eux, de ne pas polluer, parce qu'après, quand les animaux ils vont boire dans des flaques, ça va les empoisonner et puis ça va les tuer.
Protéger les animaux comme on protège ses proches, ne pas taper sur ses animaux, toutes ces choses-là. Quoi.
La disparition des animaux, c'est dû, d'une part, au réchauffement climatique.
Par exemple, les animaux qui vivent dans l'eau, on peut les protéger en ne plus polluant dans les lacs. Et aussi, les animaux terrestres, c'est à peu près pareil. La pollution, ça va dans leur forêt aussi.
C'est devenu important pour moi parce que, moi, j'ai envie d'aider la Terre, comme ça. Parce que quand je regarde à la télé ou dans des reportages animaliers, surtout dans les situations où sont les animaux. Et donc, moi, j'ai voulu les aider parce que je trouve que parce qu'on aide les humains et les animaux, il faudrait faire pareil puisque ils sont pas vraiment différents de nous.
Radio B comme Butch.
Vous aussi, vous aimez les animaux ?
On est allé à votre rencontre dans les rues de Bourg.
C'est quoi pour vous la protection animale ?
C'est tout le respect de l'animal, il faut le respecter, ça a un cœur, ça a une âme, donc il faut être gentil avec eux comme on est gentil avec nous.
Que te dire, j'en sais rien moi, aller à la SPA, comment pas brutaliser les animaux, faire attention que les gens les brutalisent pas.
C'est quoi pour vous la protection animale ?
C'est de traiter les animaux comme on peut traiter les gens, donc, c'est-à-dire pas les frapper, pas les maltraiter, les nourrir normalement, qu'ils vivent dans de bonnes conditions et surtout qu'ils vivent dans leur environnement d'origine. Voilà, c'est ça. Voilà.
Que pensez-vous de la protection animale ?
C'est une bonne chose, parce que les gens qui maltraitent leurs animaux, moi je supporte pas.
Moi je dis, quand on n'aime pas les animaux, on n'aime pas les gens.
Faites-vous quelque chose pour sauver les animaux, si oui, quoi ?
J'évite de faire du mal à ceux que je vois.
Quand il y a des pétitions que je vois sur Internet pour le sujet des animaux, je fais passer le je partage et je signe les pétitions. Et voilà, je fais à mon niveau ce que je peux.
Voulez-vous sauver les animaux ?
Si je pouvais, oui, je le ferais.
Lesquels et pourquoi ?
Moi, j'aime beaucoup les éléphants. C'est un animal majestueux, donc si je devais me lancer dans une cause, c'est pour les éléphants.
Ceux en perdition, par exemple.
En France, les loups, parce qu'on veut les chasser, parce qu'ils tuent des brebis. Sur la terre, il y a beaucoup d'animaux qui vont disparaître. Hein. Les éléphants, les rhinocéros.
On dit aussi les éléphants, il en reste beaucoup moins parce qu'on les tue pour prendre leur défense dans les régions où il y en a.
Aussi bien les singes, les lions, n'importe. Il y en a de moins en moins.
Il y en a un paquet. Des animaux, puis des insectes. Les ours blancs, par exemple. Les ours blancs sur la banquise, tu vois. Que la banquise rétrécit, qui sont de plus en plus éloignés de leur nourriture. Donc, parce que les phoques, ils sont plus au bord de l'eau sur la banquise, ils sont bien à l'intérieur des terres, eux aussi, ils disparaissent. Donc, mais ils n'ont plus de nourriture. Maintenant, ils font les poubelles dans les villages des gens qui habitent là-bas. Et ça fait mal au cœur. Puis on les voit tout maigres, faire les poubelles. Tu te rends compte ? Les beaux ours blancs.
Avez-vous déjà sauvé des animaux ?
Quand j'étais petite, un pigeon à la place des bons enfants, il était coincé dans une petite grille, on l'a sauvé. Ouais.
Merci à tous pour vos réponses.
Radio B comme Bélouia.
Un jour, Emma, Lola, Sofiane et Ulysse ont imaginé un code de protection des animaux.
1. Protéger les animaux comme on protège ses proches.
2. Ne pas taper ses animaux domestiques.
3. Faire connaître les animaux peu connus.
4. Les braconniers ont l'interdiction de tuer les animaux en voie de disparition sous peine de prison à vie.
5. Ne pas détruire la faune et la flore qui sont l'habitat des animaux sauvages.
6. Ne pas tuer les animaux pour la cosmétique.
7. Ne pas laisser ces animaux domestiques seuls plus d'un jour.
8. Il est interdit de prendre des animaux pour faire des expériences dessus.
9. Ne pas prendre la fourrure d'animaux sauvages et domestiques pour en faire du prêt-à-porter.
10. Lire les étiquettes des produits avant de les acheter. Vérifier qu'il n'ait pas été testé sur les animaux.
11. Ne pas enlever les animaux de leur habitat naturel.
12. Il est interdit de faire manger de la drogue aux animaux.
13. Cacher davantage les animaux dans les zoos pour un peu plus d'ombre et d'intimité.
14. Définir un nombre maximum pour les visiteurs des zoos.
15. Mettre des forêts privées pour les animaux. Interdites aux touristes.
16. Ne plus jeter de détritus dans la mer.
Tous unis pour les animaux!
Radio B comme Boa. Psst.
Tout de suite, une petite pause musicale. On écoute Féloche sur Radio B et la chanson Silbo.
Après, on retrouvera Quentin et Régis pour l'interview.
Les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux, et à nouveau un sifflement pour se dire adieu. On ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria pour protéger son île, El Silbo pour braver la guardia civile. Escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée.
Vous écoutez Radio B, une émission de l'école de Brou à Bourg-en-Bresse.
Merci de votre écoute.
Bonjour, bienvenue dans notre école et merci d'être là aujourd'hui pour répondre à nos questions.
On a choisi le thème de la protection des animaux pour notre émission.
On a rassemblé nos questions et on en a fait une bonne liste.
Quentin et Régis, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
En quoi consiste votre métier ?
Moi, je suis en service civique à la FRAPNA 1. Donc, c'est une association de protection de la nature. Et je suis sur la mise en place d'un observatoire des mares. Donc, ces petits trous d'eau qu'on voit un peu partout dans la nature.
Pour moi, je suis ce qu'on appelle un bénévole, c'est-à-dire que ce n'est pas mon métier, mais je fais partie de cette association, donc de la FRAPNA, et je viens là par passion.
C'est quoi la FRAPNA ?
Alors la FRAPNA, comme je l'ai dit, c'est une association de protection de la nature qui va essayer de mettre en place des actions qui vont permettre de protéger les animaux et puis l'environnement en général. Donc ça peut être soit directement la protection des animaux, ou alors travailler sur les déchets, sur l'eau, sur beaucoup de thématiques différentes.
Et la FRAPNA, ça veut dire Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature.
Quelle information pouvez-vous nous donner sur les libellules ?
Alors, tout d'abord, qu'est-ce que tu voudrais savoir sur les libellules ? Parce que c'est beaucoup de libellules, c'est un vaste monde. Alors, qu'est-ce qui t'intéresserait de connaître, toi ?
Comment vivent les libellules ?
Alors, comment vivent les libellules ? Alors, les libellules, c'est très particulier parce que c'est des insectes, hein, c'est-à-dire c'est des petites bêtes, mais elles ont deux grandes parties dans leur vie. Il y a une première partie de leur vie qui va se dérouler sous l'eau. Donc, on dit à ce moment-là que ce sont des larves. Hein, et puis, à un moment de leur vie, elles vont sortir de l'eau et là, elles vont prendre des ailes. Elles vont pouvoir voler, et c'est comme ça qu'on les connaît le plus souvent. Parce que la libellule qui est au fond de la mare ou au fond de la rivière sous forme de larve, pratiquement personne sait que ça existe. Hein, d'accord ? La libellule que l'on voit, tout le monde, c'est la libellule avec ses ailes qui vole de nénuphar en nénuphar. Hein.
Pourquoi voulez-vous protéger les libellules ?
Alors, on protège les libellules parce que, comme tout être vivant, ils méritent d'être protégés. Hein, de la même manière que les êtres humains, mais tous les êtres vivants. Et puis aussi parce que les libellules, au travers de leur protection, on protège également leur lieu de vie. Leur lieu de vie, donc, ça veut dire l'endroit, par exemple, où elles vont passer leur vie de larve. Ça peut être une mare, ça peut être une rivière, ça peut être un lac.
Les libellules, on voit tout ce que c'est, mais comment vous les décrivez, vous qui les connaissez bien ?
Alors, c'est assez facile finalement. Les libellules, c'est des insectes. Donc les insectes, ils ont 6 pattes, déjà. Donc nous, on voit qu'on n'est pas des insectes, déjà. Donc ils ont 6 pattes. Les libellules, elles ont des toutes petites antennes. Elles ont 4 ailes. Elles ont 3 grandes parties, donc elles ont une tête. Ce qu'on appelle un thorax, hein, c'est un peu l'équivalent de notre tronc chez nous. Et puis un abdomen qui est donc de forme très effilée. Et puis après, il y a d'autres petits caractères qui permettent de savoir que ce sont des libellules pour pouvoir les distinguer des autres insectes. Mais bon, c'est des fois un petit peu compliqué déjà à expliquer.
À votre avis, est-ce que la libellule est en voie de disparition ?
Alors, c'est une question qui est très intéressante, mais ce n'est pas facile de répondre à cette question. Parce que des libellules, il y en a plus de 6300 espèces dans le monde. Rien qu'en France, on a à peu près 100 espèces de libellules différentes. Ça veut dire que sur ces 100 espèces qu'on a en France, on va avoir des libellules qui vont se porter bien, on va dire, hein, y a pas de souci. Et puis on va en avoir certaines qui vont être ce qu'on appelle menacées, c'est-à-dire qu'en fait elles sont en tout petit nombre et puis leur milieu de vie est menacé par l'homme ou par le changement du climat, par exemple.
Combien existe-t-il de libellules différentes ?
Alors j'avais déjà en partie répondu à la question. Donc sur le monde entier, donc sur toute la planète, on connaît, mais là c'est tout récent, hein, c'est depuis le début mars, là on sait qu'il y a à peu près 6300 espèces de libellules dans le monde. Alors ça peut paraître beaucoup, mais finalement dans les insectes, c'est pas tant que ça. Hein. Il y a d'autres espèces d'insectes, par exemple ce qu'on appelle les scarabées, hein, pour faire simple, là il y a des dizaines de milliers d'espèces. Donc finalement 6000 libellules, c'est pas tant que ça. Et en France, donc, on en a une centaine. Dans le département de l'Ain, on en a 74 espèces. Et à Bourg, on en a 40 espèces, ce qui est quand même pas mal.
Combien pèse une libellule ?
Eh bien, ça va dépendre aussi de l'espèce de libellule dont il s'agit. Vous avez, par exemple, notre plus grosse libellule chez nous, hein, celle qui est la plus costaude, qu'on appelle l'Anax empereur. Elle arrive à faire 1 gramme. C'est la plus grosse, c'est la plus lourde, elle fait 1 gramme. Et dans le monde, on va avoir des libellules qui sont un tout petit peu plus grandes, qui vont arriver à 1,5 g, mais voilà, ça va être le maximum. Mais elles ne sont pas très grandes non plus. La plus grande libellule du monde, elle mesure 20 cm de largeur, hein, des ailes. Vous voyez, les ailes font 20 cm, donc c'est pas très très grand quand même. Hein. Mais il faut savoir par contre qu'il y a très longtemps, il y a 320 millions d'années, il y avait les ancêtres des libellules, et ces ancêtres-là étaient beaucoup plus grands puisqu'elles atteignaient 70 cm d'envergure. C'est-à-dire que les ailes écartées, elles faisaient 70 cm.
Une libellule fait combien de temps ?
Alors, encore une question à laquelle il est difficile de répondre par une seule réponse, parce que suivant les espèces, les libellules vont vivre plus ou moins longtemps. Et puis, comme je l'ai dit au tout début, la libellule, elle a finalement deux vies. Elle a la première partie de sa vie qui va donc se passer sous l'eau et la deuxième partie de sa vie qui va se passer à voler dans l'air. Alors cette première partie sous l'eau, ça peut être quelques semaines chez certaines espèces, mais ça peut aller jusqu'à 6 ou 7 ans. C'est-à-dire qu'on va avoir une larve de libellule qui va passer 6 à 7 ans dans une petite flaque d'eau ou dans une rivière ou dans un étang. Et puis après, quand elle va être en mesure de voler, donc qu'elle aura pris ses ailes, là, en général, c'est quelques semaines à quelques mois. C'est assez rapide. Hein. La libellule, en fait, quand elle devient adulte, donc quand elle a ses ailes, qu'elle peut voler, eh bien, elle est essentiellement là pour se reproduire, c'est-à-dire pour trouver une femelle, et puis pour assurer la descendance de l'espèce, c'est-à-dire faire des petits.
Quelle taille a une libellule à la naissance ?
Alors, les libellules, elles pondent des œufs. La femelle de libellule pond des œufs. Donc le petit de la libellule à la naissance, c'est un œuf qui fait moins d'un millimètre de long. Ce qui fait qu'en fait, le premier stade de la libellule, le premier stade de la larve de libellule, ça va être quelque chose de minuscule qui fait moins d'un millimètre de long. Et puis après, elle va grandir cette larve. Mais elle ne va pas grandir comme nous. Parce que tout simplement, nous, vous savez qu'on a un squelette à l'intérieur de nous. On a des os à l'intérieur de notre corps. Les insectes, eux, ils ont un squelette qui est à l'extérieur de leur corps. Eh oui, ça c'est extraordinaire. Hein. Et quand on a un squelette à l'extérieur de son corps, c'est un peu comme si on avait une carapace, comme si on avait une cuirasse, une armure. Donc quand on grandit, eh bien l'armure à un moment elle est trop petite, donc il faut changer d'armure. Ce qui veut dire que notre larve de libellule, 8 à 12 fois dans sa vie de larve, suivant les espèces, hein, elle va devoir changer d'armure. Donc elle va laisser tomber son armure pour avoir une armure un peu plus grande et puis comme ça arriver à sa taille qui va lui permettre après de sortir de l'eau et de devenir une libellule qui vole.
Que mangent les libellules ?
Alors les libellules, c'est des prédateurs. C'est-à-dire que c'est des bêtes qui vont manger d'autres bêtes. Alors bien entendu, ça mange des petites bêtes parce que c'est des petites bêtes. Hein. Alors qu'est-ce qu'elles vont manger ? Elles vont manger beaucoup de moustiques. Des moustiques, des larves de moustiques. Donc vous savez que les moustiques, ils ont la première partie de leur vie qui se passe dans l'eau. Et s'il y a une larve de libellule à proximité, eh bien elle va essayer de manger la larve de moustique. Alors elle n'arrive pas tout le temps à manger toutes les larves de moustiques. C'est bien dommage, on aimerait bien qu'elle en mange plus. Et puis après, la libellule qui vole, eh bien pareil, elle va aussi voler et essayer de manger des moustiques, des mouches, des papillons. Quand on est larve de libellule... On mange finalement ce qui nous passe sous la tête. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un petit têtard, vous voyez ce que c'est un têtard ? C'est un bébé grenouille. Hein. Un bébé grenouille ou un bébé triton, bébé salamandre, etc. Donc, si on a un petit têtard qui passe à proximité d'une grosse larve de libellule, ben, c'est évident que la libellule va chercher à le manger. Mais bon, la même chose va se passer en sens inverse. C'est-à-dire que si on a une grosse larve de triton, par exemple, ou un gros têtard de grenouille, il pourrait bien manger la petite larve de libellule qui passe à proximité. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un certain équilibre qui se fait. Mais ce qu'il faut retenir, par contre, c'est que nos libellules, ce sont tous des prédateurs. Donc des bêtes qui vont manger d'autres bêtes. Alors quelquefois, de toutes petites bêtes hein, qu'on voit à peine nous, il faudra un microscope pour les voir. Et puis des bêtes, des fois, un peu plus grosses. Par contre, elles ne viendront pas vous manger. Ça, c'est important.
Quelle est la libellule la plus connue ?
Alors, la libellule la plus connue, ça dépend un petit peu où on habite. Si on a une mare, par exemple, à proximité de chez soi, on verra très souvent une libellule qui s'appelle la libellule déprimée, qui est une libellule avec un corps assez massif et qui est de couleur bleue. D'accord ? Le corps est de couleur bleue et puis les ailes sont transparentes. Si on vit à proximité ou si on passe à proximité d'un ruisseau, on verra très souvent une jolie libellule qui est toute bleue métallique, hein, avec les ailes qui sont toutes bleues métalliques aussi. On appelle ça un caloptérix. Ah, c'est un joli nom. Mais on les appelle souvent des demoiselles parce qu'elles sont très élégantes aussi. Hein. Et voilà, ça fait partie des libellules que vous pouvez voir très souvent et qui sont bien connues des gens qui se promènent au bord de l'eau.
Et la moins connue ?
La moins connue, je dirais, c'est celle qu'on n'a pas encore trouvée. Parce que chaque jour, on en... Enfin, chaque jour, peut-être pas chaque jour, mais chaque année, en tout cas, on a de nouvelles libellules qui sont trouvées. Là, en ce moment, par exemple, je suis en train de faire la description d'une larve de libellule qui n'est pas encore connue. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Personne ne lui a donné de nom encore.
Ouais. Pourquoi la libellule vole-t-elle à l'envers ?
Eh bien, tout simplement parce qu'elle peut le faire. C'est-à-dire qu'en fait, ses ailes à cette libellule, elles sont faites de telle manière qu'elle peut aller vers l'avant, vers l'arrière, monter, descendre, aller sur les côtés, ce que ne font pas forcément tous les insectes. Par exemple, un papillon ne va pas pouvoir le faire. Et la libellule, elle va s'en servir, par exemple, pour se reposer mieux sur son perchoir, elle va s'en servir pour échapper à un prédateur, ou elle va s'en servir pour aller plus facilement sur une proie qui aurait pu lui échapper.
Les grenouilles. Combien pèse une grenouille ?
Donc, comme tout à l'heure pour les libellules, une grenouille, ça va dépendre de l'espèce que c'est. On a des toutes petites grenouilles et on a des très grosses grenouilles. Donc, en France, en moyenne, je dirais une vingtaine de grammes, à peu près. Donc, c'est pas très très lourd. Je suppose qu'il y en a qui en ont déjà porté. Donc, normalement, il faut pas porter les grenouilles et les amphibiens en général parce que c'est des espèces protégées. Mais ça pèse pas très très lourd.
Quelle est la plus grosse grenouille en France ?
Alors, la plus grosse grenouille en France, donc il y a deux espèces dont je vais parler. Il y a une très grosse grenouille en France, mais qui ne vient pas de France. Donc, c'est une espèce qui colonise les milieux, mais qu'on appelle une espèce invasive. Donc, c'est une espèce qui va beaucoup se reproduire très, très vite et prendre la place des autres espèces. Donc, ça, c'est la grenouille taureau. Et elle peut faire jusqu'à 20 cm. Donc, 20 cm, ça fait déjà une belle bête. Sinon, la deuxième grenouille dont je pourrais parler, c'est la grenouille rieuse, qui, je pense, est la plus grosse. Donc, c'est une grenouille verte. On l'appelle grenouille rieuse parce que quand elle chante, elle fait un petit peu les bruits comme Donald Duck, donc le canard de Mickey.
Et pourquoi on appelle la deuxième grenouille la grenouille taureau ?
Alors, on l'appelle grenouille taureau parce qu'elle est très grosse. Donc, ça rappelle aussi la fable de La Fontaine, la grenouille qui voulait devenir aussi grosse qu'un bœuf, je crois. Pas qu'un taureau, mais voilà.
Les hérissons piquent-ils vraiment ?
Alors oui, les hérissons, ils ont des pics sur le dos, donc comme vous le savez tous. Donc si on les frotte dans le mauvais sens, ça va piquer. Par contre, un hérisson pourra ne pas piquer si on les frotte dans l'autre sens. Donc un hérisson, ça pique vraiment, mais c'est plus pour se défendre des prédateurs. Donc si on va l'embêter, il va se mettre en boule et il va rester en boule pour qu'on se pique si on essaye de l'attraper. Mais voilà.
Quel est le plus gros hérisson au monde ?
Alors ça, je sais pas. Je pourrais pas dire quel est le plus gros hérisson du monde. Il me semble qu'on a 24 espèces de hérissons dans le monde. Par contre, je sais que notre hérisson de chez nous en France, donc l'hérisson qu'on appelle européen ou commun, il peut faire jusqu'à 2 kilos en hiver. Donc il est plus lourd en hiver qu'en été, et je sais pas si vous savez pourquoi.
Parce qu'il mange plus ?
Non, bah, il mange plus, donc il est plus gros, mais ça a un but aussi.
Ils mangent juste pour que, dès qu'ils vont dormir l'hiver, ils mangent pour qu'ils aient pas faim dès qu'ils vont dormir, pendant tout l'hiver.
C'est ça, parce que les hérissons, ils font comme les marmottes, et donc ils hibernent pendant l'hiver. Et pour rester quasiment 6 mois sous terre, sans manger et sans rien faire, ils sont obligés de manger beaucoup, 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 pour grossir et pour pouvoir tenir tout l'hiver en hibernation.
Que mange un hérisson piquant ?
Qu'est-ce que c'est un hérisson piquant ?
Bah, c'est un hérisson qui pique.
D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tous les hérissons qui piquent. Il y a, en France, nous, ils piquent, et il y en a beaucoup d'espèces qui piquent, mais il y a aussi des espèces de hérissons, donc on va dire de la famille, de la même famille que tous les hérissons, qui sont sans piquant, donc qui ont juste des poils. Et donc, le hérisson de chez nous, en tout cas, il peut manger des insectes, donc c'est ce qu'on appelle un insectivore. Il peut manger des vers de terre, des limaces, des escargots. Et parfois, il arrive même qu'il s'attaque à des serpents, à des lézards, à des petits oiseaux qui nichent sur le sol et même à des mammifères, des petits mammifères.
Les hérissons sont-ils protégés ?
Donc alors, comme je disais, tous les hérissons, je sais pas, mais en tout cas l'espèce qu'on a en France, donc l'hérisson européen, il est protégé.
Quel est le temps de gestation d'une femelle hérisson ?
Donc une femelle de hérisson, elle va garder son petit dans le ventre pendant 5 à 6 semaines. C'est très court, comparé à l'homme où c'est 9 mois, ou à l'éléphant où c'est 21 mois.
Les marmottes, quelle est la taille d'une marmotte ?
Alors une marmotte, ça commence déjà à être un gros animal. Donc ça peut faire jusqu'à 50 cm de haut et jusqu'à 70 cm de long si on compte la queue aussi, parce qu'elle a une très longue queue de 20 cm.
Y a-t-il des animaux en voie de disparition qui vivent près de chez nous ?
Alors, est-ce qu'il y a des animaux en voie de disparition qui vivent près de chez nous ? Je dirais oui. Alors, ce n'est pas forcément des gros animaux. Ça peut être par exemple certaines espèces de libellules, par exemple, qui sont en voie de disparition et qui habitent pas très loin de chez nous. Ça peut être aussi des petits rongeurs. Ça peut être d'autres petits animaux. On a ça également, par exemple, chez les amphibiens, donc chez des tritons, des salamandres, etc. Ou bien encore, on peut avoir ça chez des oiseaux. On peut avoir, par exemple, dans le département de l'Ain, on avait un oiseau qui était présent dans l'Ain jusqu'il y a encore une vingtaine d'années qu'on ne voit plus, qui s'appelait l'outarde canepetière, par exemple. Dans le Val-de-Saône, on avait le râle des genêts, qui a pratiquement disparu. On ne sait plus vraiment s'il nous en reste. Et en Dombes, on a des oiseaux encore, comme la guifette moustaque, par exemple, dont le nombre devient de plus en plus faible et on ne sait pas s'ils ne vont pas disparaître assez vite.
On avait parlé tout à l'heure du hérisson, et le hérisson est protégé, par exemple. Et de souvenir, toutes les espèces d'amphibiens, donc les grenouilles, les crapauds, les tritons et les salamandres, ils sont tous protégés. Donc normalement, on n'a pas le droit de les porter, de détruire leur milieu, de les tuer, on n'a pas le droit de les déplacer non plus.
Est-ce que vous faites ça pour tous les animaux ?
Alors, on fait ça pour toutes les sortes d'animaux. Donc on va dire pour les rongeurs, il y aura des espèces protégées. Pour les libellules, il y aura des espèces protégées. Pour les amphibiens, il y a des espèces protégées. Mais on fait toutes les espèces ne sont pas protégées. Il y a des animaux qui ne sont pas protégés, mais qu'on surveille quand même et qu'on regarde quand même. Mais on ne va pas aller les défendre, il n'y a pas des lois sur eux.
Donc, du coup, là, tous les animaux qu'on vous a dit en question, vous les savez. Je voudrais savoir comment vous les avez, comment vous savez tout ça sur les animaux ?
Soit par des études qui ont été menées par d'autres gens, et nous on a lu des livres, lu des rapports de recherche, et puis il y a beaucoup de livres sur les espèces, donc des guides sur les libellules, des guides sur les oiseaux, des guides sur les amphibiens, etc. etc.
Et il faut dire aussi que c'est les sciences, donc les sciences de la nature, c'est une discipline, donc c'est une matière, on va dire, qui s'apprend aussi. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'on a eu son bac, on peut aller à la faculté, à l'université, comme l'a fait Quentin, par exemple, pour apprendre à connaître la nature et puis apprendre aussi à s'occuper de la nature. Hein. C'est aussi un vrai métier.
Connaissez-vous des animaux marins en voie de disparition ?
Alors, il y a beaucoup d'animaux marins qui sont en voie de disparition, ou en tout cas qui sont protégés. On a notamment la plupart des dauphins et les baleines qui sont protégés, mais aussi les lamantins ou le beluga, par exemple, les requins aussi. Et donc, on a beaucoup de mal, en fait, à connaître vraiment le nombre d'individus qui sont présents. Mais on sait qu'il y a une baisse des effectifs, donc du nombre d'animaux marins, de ces animaux marins-là, qui est vue. Donc il y a plusieurs animaux marins qui sont protégés, oui.
Quels animaux font 10 mètres ?
Alors, quels animaux font 10 mètres ? Eh bien, tous ceux qui font plus de 10 mètres, et il y en a quand même beaucoup, hein. Alors, la plupart des animaux qui dépassent 10 mètres, on va les trouver dans la mer. Parce que tout simplement, sur Terre, on n'a pas des bêtes qui sont aussi grandes que ça. On n'en a plus, du moins. Hein. Par contre, dans la mer, là, on a des animaux qui dépassent 10 mètres et qui dépassent largement 10 mètres. Donc, on a, par exemple, chez les baleines, on l'a chez les requins. On a, par exemple, le requin-baleine, qui est un grand requin. Bon, un grand requin très, très sympathique, parce qu'il ne mange que des toutes petites algues et tout petits animaux. Donc, lui, il ne vient pas manger les surfeurs. Hein. Mais c'est un très, très grand animal qui fait couramment une douzaine de mètres de long. Hein. Et puis, la baleine bleue, alors, j'ai plus le chiffre exact, mais on doit arriver à 30, non ? Ouais. 30 mètres de long, donc ça fait quand même très grand. Ah oui, ouais. Mais voilà, c'est dans la mer. Là, dans la pièce, on aurait par exemple le grand crocodile marin qu'on a du côté de l'Australie et de l'Indonésie, qui aurait peut-être du mal à tenir dans la pièce. Hein. Il serait un petit peu juste là.
Ça veut dire que la baleine requin, elle fait toute l'école.
C'est possible, j'ai pas la taille de l'école en tête, mais ça fait plus grand qu'un bus. Hein.
Mais au moins, la girafe, vu qu'elle est grande en hauteur, elle fait au moins combien de mètres ?
J'ai pas d'idée particulière, je pense que c'est particulière.
Elle fait moins de 10 mètres.
Ah oui, elle fait moins de 10 mètres, c'est sûr. Ouais. Ça doit être 4-5 mètres, je pense, au maximum en hauteur. Ouais.
Pourquoi certains animaux peuvent-ils respirer sous l'eau et pas d'autres ?
Alors, pourquoi certains animaux peuvent-ils respirer sous l'eau ? Eh bien, parce que certains sont capables de se retenir, de respirer. Je vais y arriver. Par exemple, on parlait de la baleine. Par exemple, la baleine, elle va prendre une grande inspiration, garder beaucoup d'air, et puis elle va descendre très très profond. Hein. Un cachalot, par exemple, qui est aussi une sorte de baleine, va descendre à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Hein, et va rester plusieurs dizaines de minutes sous l'eau. Les tortues sont capables de le faire aussi, comme pour les phoques hein, aussi, on pourrait parler des phoques par exemple. Mais pour ces animaux-là, il va falloir à un moment ou à un autre qu'ils reviennent à la surface pour prendre de l'air. Alors que d'autres animaux, par contre, eux, sont équipés, on va dire, ils sont équipés pour pouvoir respirer sous l'eau. Par exemple, les poissons, ils ont ce qu'on appelle des branchies, c'est-à-dire des sortes de petites lamelles, où le sang est en contact avec l'eau. Et ces petites lamelles, ça leur permet tout simplement d'extraire l'oxygène qui est dans l'eau et d'amener l'oxygène à leur sang, tout simplement. Et c'est pour ça donc qu'on va avoir certains animaux qui vont pouvoir respirer tout le temps sous l'eau. Alors c'est le cas des poissons, mais c'est aussi le cas des larves d'amphibiens, c'est le cas des larves des libellules qui vont fonctionner de la même manière. C'est aussi le cas de quantité de petites bêtes qui vont vivre aussi au fond de l'eau, par exemple chez les crustacés, vous voyez, des écrevisses, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va avoir des animaux qui vont pouvoir respirer sous l'eau et d'autres qui seront obligés de se retenir de respirer, comme le font par exemple les plongeurs en apnée chez nous.
Et est-ce que vous savez ce que c'est le record de plongée pour un animal qui n'a pas de branchie ? Donc le record de temps et de profondeur.
Une supposition, hein, une heure ?
Une heure, non, c'est plus.
Trois heures à peu près ?
Un peu moins.
Deux heures ?
C'est un petit peu plus de 2 heures, ouais. Un peu plus de 130 minutes, donc ce qui fait 2 heures et 10 minutes. Et en profondeur ?
100 mètres ?
Non, c'est beaucoup plus.
Dans les millions de mètres ?
Ah non, non, c'est beaucoup moins.
On ne va pas aussi profond.
50 000 ?
Non, c'est beaucoup moins.
3 000 ?
3 000. Et c'est presque 3 000, c'est 2900 et quelques. Et donc c'est une baleine qui s'appelle la baleine de Cuvier, qui fait à peu près 6 mètres de longueur. Et qui peut descendre jusqu'à... Et elle détient les deux records. Donc elle peut descendre jusqu'à 3000 mètres presque. Et elle peut tenir plus de 130 minutes sous l'eau, sans respirer.
Comment les animaux reconnaissent-ils leur nourriture ?
Alors, comment ils reconnaissent leur nourriture ? Eh bien, je crois que... En fait, c'est ce qu'on appelle l'inné. L'inné, c'est-à-dire que spontanément, sans qu'ils apprennent, en fait, ils savent ce qu'ils peuvent manger. Donc ça, c'est les animaux le savent, entre guillemets, dès le départ.
Comment les animaux font naître leur bébé ?
Eh bien alors, ça dépend. Donc comme sur beaucoup de questions, je ne pourrais pas donner une seule réponse, parce que ça va dépendre beaucoup de l'animal que c'est. Par exemple, on sait que les poules, elles peuvent pondre des œufs. On a dit que les libellules peuvent pondre des œufs, mais il y a aussi des animaux qui vont donner directement un bébé déjà fait. Donc comme les chiens, comme les chats, comme tous les mammifères, on va dire. Et il y en a qui vont faire un mélange des deux, c'est-à-dire qu'ils vont faire des œufs, mais qui vont les garder sur eux, et que les œufs vont éclore à l'intérieur de la femelle, ou même du mâle, pour les hippocampes, par exemple. Et ils vont après lâcher les bébés directement, comme des petits adultes, mais tout petits.
Pourquoi aimez-vous les animaux ?
C'est difficile à répondre. parce que je trouve que les animaux, c'est assez sympathique. On a tous commencé par aimer les animaux, certains animaux. Donc par exemple, moi j'ai commencé en aimant mes animaux de compagnie. Et puis après, j'ai découvert, quand j'étais petit, j'étais tout le temps dans les ruisseaux à chercher les petites bestioles, dans l'herbe à chercher les sauterelles, les criquets. Et je ne saurais pas vraiment dire pourquoi je les aime, mais c'est comme ça. Et toi ?
Bah, moi, c'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire, bon, alors, déjà, le fait que les animaux, bah, ils méritent qu'on s'intéresse à eux, donc c'est pour ça qu'on les aime aussi, mais bon, moi, j'aime bien les plantes aussi, ça m'intéresse aussi les plantes, la nature en général m'intéresse, parce que les animaux, bah, ils font partie de la nature, parce qu'ils ont un rôle dans la nature, donc c'est important qu'on les aime. Et puis après, parce que, bah, par exemple, pour les libellules, puisque vous avez vu que moi, j'aime bien les libellules, bah, parce que je trouve que c'est des bêtes qui sont très jolies, et j'ai plaisir à les regarder voler, et puis j'ai même plaisir à les regarder quand elles sont encore au fond de l'eau sous forme de larves.
Quentin et Régis, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.
À bientôt!
À bientôt.
Eh bien, merci à vous d'avoir déjà accepté de nous poser toutes ces questions. Et puis, j'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Et si on n'a pas encore complètement répondu à vos questions, eh bien, on va essayer d'y répondre encore.
Merci. Eh oui, c'est pareil. Merci de nous avoir accueillis aussi.
Merci encore à Quentin et Régis. On a bien aimé vous accueillir dans notre école et discuter avec vous.
Radio B comme bison. Beaucoup d'animaux sont en voie de disparition sur notre planète.
Et des animaux fantastiques.
Nous, on a envie de tous les protéger. Grâce à Ulysse et ses petites cartes sur les animaux. On vous a préparé un petit jeu.
Vous devez vous demander si on dit vrai ou faux.
Allez, on y va.
Le panda géant. Le panda ingère 20 kilos de bambou par jour. Vrai.
L'orang-outan. En malais, orang-outan signifie homme de la jungle. Faux. Ça signifie homme de la forêt.
Le rhinocéros noir. Le rhinocéros noir mesure en moyenne 325 cm. Vrai. Ça veut dire qu'il mesure plus de 3 mètres de long.
L'ours blanc. L'ours blanc pèse en moyenne 510 kg.
C'est vrai.
La marmotte de l'île de Vancouver. Son temps de gestation est seulement de 30 jours. C'est vrai.
L'éléphant d'Afrique. La longévité d'un éléphant d'Afrique est de 80 ans. Faux, elle est plutôt de 65 ans.
Oryx algazelle. Cette gazelle vit jusqu'à 8 ans.
Faux, elle peut vivre jusqu'à 27 ans.
Le cheval de Przewalski. Sa queue mesure 80 cm.
Faux, elle mesure jusqu'à 95 cm.
Le tigre du Bengale fait 50 cm de longueur.
Faux, il mesure en moyenne 220 cm. Ça fait plus de 2 mètres.
Le tamaralion à face noire, c'est un singe. Ils sont plus que 400 à l'état sauvage.
Vrai, malheureusement. Il se nourrit de poissons.
Faux, il mange des fruits, des champignons, des invertébrés et du nectar de fleurs.
Notre émission est presque terminée.
Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés.
Cette émission est le résultat d'un travail fait au deuxième trimestre pendant une dizaine de séances en atelier radio avec Pauline.
Au revoir!